Bonjour. Alors, nous allons commencer cette première table ronde de l'après-midi sur sexe, argent et politique. Vaste sujet, vaste programme. Et c'est assez intéressant de voir que sont rassemblés dans le titre trois, je dirais, des tabous ou des sujets longtemps tabous, parce qu'ils ne sont pas forcément demeurés tous, mais ils l'ont été, le sont encore un peu pour certains dans la société française, mais à des degrés divers et aussi sans doute différents selon les interlocuteurs. Alors, je vais introduire brièvement donc cette table ronde avant de donner la parole à mes trois petits camarades. Mais je voudrais d'abord un petit peu poser le sujet en disant que si on veut répondre, par exemple, à la question lequel, justement, de ces trois tabous ou ces trois sujets l'est le plus, eh bien, ça suppose effectivement d'entrer un tout petit peu dans le détail. Et je pense que je vais simplement donner quelques exemples qui nous éclaireront et permettront un petit peu de planter le décor. Alors, sur tout d'abord sexe et argent. Moi, j'ai fait deux enquêtes qualitatives, donc sociologiques qualitatives, l'une sur la vie amoureuse et sexuelle des Français, et l'autre sur le rapport des Français à l'argent. Et c'était des enquêtes que j'ai faites à partir d'histoires de vie, mais d'histoires de vie très longues, où les gens pouvaient parler pendant 2 heures, 3 heures, selon ce qu'ils avaient à dire. Et si j'évoque ces deux enquêtes, c'est parce que bon, j'ai fait d'abord l'enquête sur la vie amoureuse et sexuelle, puis ensuite... à peu près 2-3 ans plus tard, la vie sur le rapport des Français à l'argent. Et quand j'ai commencé l'enquête sur les Français et leur argent, je me suis dit que pour que bon, je commence de façon un peu cool, un peu facile, j'allais rappeler des gens qui, dans mon enquête, parlaient de l'enquête sur la vie amoureuse sexuelle, parlaient assez librement et en me disant bah, comme ça, bon, on démarre de façon un peu cool. Et je me suis rendu compte très vite que des personnes qui m'avaient parlé pendant des heures et avec tous les détails de leur vie amoureuse et sexuelle, eh bien, ils avaient beaucoup, beaucoup plus de mal à parler de leur rapport à l'argent. Et notamment, plusieurs, après, donc, à la fin de l'entretien, me disait « quand vous m'avez demandé combien je gagnais par mois, je me suis demandé si j'allais vous le dire », alors qu'ils m'avaient décrit leur nuit torride dans tous les détails, ou leur visite à des dominatrices aussi dans tous les détails, enfin j'y reviendrai. Et il y en a même un qui, au milieu de l'entretien, comme je lui demandais un peu quel était son patrimoine, ce qu'il possédait, voilà, de façon quand même très... pas très inquisition, pas de façon... disons, c'est pas de façon inquisition, hein. Et qui après s'est exposé en me disant « Mais enfin, vous posez des questions que personne n'oserait poser », et il a eu du mal à répondre. Donc, voilà, la sexualité, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus tabou, enfin, pour qu'on en parle à quelqu'un d'extérieur. En revanche, le rapport à l'argent, oula, c'est autre chose. Et notamment, on s'en rend très bien compte quand on s'interroge soi-même, on ne sait pas forcément combien gagnent les gens de votre famille, vos copains, vos voisins, vos collègues, etc. Parce qu'on ne pose pas forcément la question. Donc ça, voilà, pour typer ce premier point. Alors si on pose la relation sexe et politique, toujours en termes de tabou, on a l'impression qu'aujourd'hui, les choix politiques, et notamment le vote, bon... qui ont été longtemps effectivement extrêmement tabous, puisque le vote est secret, il y a l'isoloir, etc. Les commerçants, les artistes, quand vous les interrogez sur leur vote, disent « Ben moi, j'ai des clients de toutes les familles politiques, donc je ne vais pas vous dire que je suis de gauche, de droite, etc. On ne dévoile pas ses choix. » Or, ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors, je vous raconterai simplement une anecdote qui s'est produite. quand je participais à une autre enquête, celle sur la prostitution donc, à Paris, que j'ai co-dirigée avec Marie-Elisabeth Handmann, qui est quelque part dans le noir par là, mais bon, comme je ne vois personne, je ne sais pas. Alors, moi, je m'étais, quand on a fait cette enquête donc sur la prostitution à Paris, dont j'aurai l'occasion de reparler éventuellement, je m'étais, après avoir fait des entretiens avec des prostituées, c'était aussi une enquête qualitative, je m'étais spécialisée dans les clients de prostituées, puisqu'il n'y avait rien du tout à l'époque sur les clients. Et j'en avais notamment interviewé un qui m'avait été, disons, adressé par une des prostituées avec qui j'avais sympathisé, et pour m'aider, elle m'avait donc branché sur ses habitués, ses clients habitués. Alors, j'avais donc, disons, une espèce de code, c'est-à-dire que m'appelait sur mon portable, j'entendais une voix d'un monsieur qui me disait, voilà, j'appelle de la part de Virginie. Bon, je savais que c'était un client. Et donc, celui-là, il avait 35 ans, vivant en couple, un enfant et demi, puisque sa femme en attendait un deuxième, bonne situation, propriétaire de sa maison. Enfin, bon, c'est, apparemment, tout baignait. Et quand je l'ai au téléphone, il me dit, voilà, bon, moi, j'ai jamais fait d'entretien, alors est-ce qu'il y aura quelque chose à payer? Alors, je lui dis bah, que non, c'était gratuit, anonyme, confidentiel, etc. Enfin, je perds une fois de plus l'occasion de gagner un peu mieux ma vie, mais enfin bon, c'est pas grave, c'était comme ça. Et ce garçon, donc, en plus, beau garçon, alors... Donc, client habitué de Virginie en question, donc arrive dans mon bureau et donc je fais l'entretien et il m'explique que son problème, c'est que il a toujours envie d'être dominé par une femme. Et donc, à un moment, quand il a vraiment ressenti ce besoin, il a fait un petit travail d'approche auprès de son épouse et qui a freiné les cas de fer. Bien compris, il ne fallait pas insister. Donc, il est allé voir une dominatrice professionnelle. Et donc il me raconte en détail qu'elle l'a reçu pendant une heure dans un lieu équipé avec toutes sortes d'instruments, de tortures, de choses, etc. Donc il me raconte dans le détail tout ce qui s'était passé. Et puis, alors je fais grâce évidemment des détails, enfin ça, disons que ça se termine, il est tout nu, à quatre pattes par terre, et elle urine sur lui, et c'est le grand pli bleu de sa vie. Voilà. Et après, bah nous, sociologues, politologues, on aime bien poser des questions sur bah, la profession de parents, votre religion, enfin tous ces renseignements signalétiques, comme on les appelle. Et donc je lui demande comment il avait voté à la dernière élection présidentielle. Et là, il prend un air offusqué et il me dit « Mais enfin, je ne peux pas vous le dire, c'est beaucoup trop personnel. » Alors, voilà. Pour montrer qu'il pouvait tout dire sur sa, disons, la domination qu'il avait subie et ses histoires sexuelles, mais son vote... Alors bon, j'ai joué sur la complicité en disant « Oh, après tout ce que vous m'avez dit, etc. » Et puis il a fini par me dire qu'il avait voté pour Chirac. Enfin, voilà, c'est pour montrer ça. Alors, donc on va passer maintenant au vif du sujet, puisqu'on va avoir trois flashs, enfin, ce sera un peu plus que des flashs, mais... ce sera quand même, disons, des choses importantes et un petit peu développées. La première, ce sera sur corps et argent. Et bon, alors il y a une évidence, enfin, qui n'est pas forcément évidente pour le monde, mais pourquoi se prostitue-t-on sinon pour gagner, obtenir cet argent qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs, en tout cas pas autrement et pas dans les mêmes proportions? Quel est le prix d'une passe, d'une soirée, d'une nuit, etc. Simplement un détail. Bon, il y a quelques années, j'avais calculé combien gagnait par semaine une prostituée donc, que je connaissais, avec qui bon, j'étais devenue un peu copine, qui m'avait donc donné ses tarifs, à peu près son nombre de clients. Enfin, bon, donc c'était une moyenne, parce que c'est pas tous les jours ou toutes les semaines le même nombre de clients. Et on arrivait en calculant à 8000 euros par semaine. Et comme j'avais faire un jour à l'école de journalisme Sciences Po une séance sur la prostitution, donc pour les étudiants journalistes, il s'agissait de leur expliquer comment on fait disons une enquête sur la prostitution, j'avais donné ce chiffre et j'ai vu à ce moment-là plusieurs d'entre eux qui, bon, avaient l'air un peu ils étaient au cours, mais enfin, pas passionnés forcément par la prostitution. Tout d'un coup, se redresser, avoir des petites lumières dans les yeux, comme s'ils se disaient « Ah ben finalement, c'est intéressant, peut-être que ça vaut la peine, peut-être qu'ils ont songé comme ça à des choses. Donc après, dans les cours suivants, je n'ai plus jamais dit ce chiffre, parce que je me suis dit, oulala, c'est quand même peut-être un peu trop attractif, et bon, même si je n'ai rien contre le fait que des étudiants se prostituent, après tout, bon, je ne tiens pas forcément à les encourager. Alors, deuxième, alors donc ce sera Ruinogien qui bon, parlera plus précisément de ce problème. Et puis, on aura ensuite la question du consentement. Donc, ce sera mon Jean-Raphaël Bourges qui va traiter ça. Et bon, j'attire l'attention sur toute l'importance du consentement, puisque c'est au cœur des débats aujourd'hui. Qu'est-ce que le consentement? Qu'est-ce que consentir? Et c'est vrai qu'on a tendance, et moi je l'ai fait la première à une certaine époque, à expédier un peu ça en disant que finalement, entre adultes consentants, bon, bah, on peut, tout est permis, on peut faire ce qu'on veut, etc. Et bon, il y a quand même une question qu'on peut se poser dans le cas de la prostitution. Alors, c'est une question, hein, c'est pas autre chose. C'est-à-dire, quand on parle du consentement, puisque bon, ces femmes, puisqu'on parle pour l'essentiel des femmes, mais aussi des hommes qui se prostituent, bah, sont adultes consentants, celles qui se disent en tout cas libres ou ayant choisi, etc. Mais on peut aussi se poser la question, à quoi elles ont consenti? Est-ce que au moment même où bon, bah, elles commencent, disons, elles entrent dans la carrière, est-ce qu'elles ont consenti à ce que ce sera leur vie 20 ans plus tard ou un peu plus, quand elles seront plus âgées, qu'éventuellement, si elles n'ont pas épargné, elles se retrouveront dans la misère et devant continuer une activité quand même fatigante, bon, à un âge où on a besoin de peut-être plus d'un peu plus de repos et disons d'activités moins épuisantes. C'est une question. Alors là le troisième sujet, ce sera les féministes, parce que ça aussi c'est très important aujourd'hui pour ce qui concerne la prostitution, puisque donc ce sera Armelle Andreau qui est là, qui va présenter et développer ce thème. Bon, c'est important parce que il y a quand même eu des changements énormes. En 1975, quand il y avait eu le premier mouvement des prostituées avec Oula, avec l'occupation des églises, etc., les féministes étaient aux côtés des prostituées pour demander l'abandon d'une politique répressive, etc., qui leur valait des amendes, des séjours commissariés, etc. Or, aujourd'hui, il se trouve que les féministes sont très divisées, disons, en deux camps entre lesquels c'est souvent la guerre. Et division qu'on retrouve dans les partis, dans les syndicats, les associations, l'opinion publique, etc. Et donc c'est un sujet, la prostitution sensible, qui déclenche des passions. Alors c'est donc une table ronde qui s'avère, je pense, très riche. En tout cas, je vous présente plus en détail les intervenants. Donc Ruinogien, philosophe, directeur de recherche au CNRS. Ensuite, Jean-Raphaël Bourges, sur le deuxième sujet, qui est, si je ne me trompe, doctorant en sciences politiques. Et puis Armelle Andreau, maîtresse de conférence à l'Institut de démographie, Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Ruinogien. Alors, comme j'ai demandé à chacun, un quart d'heure maximum.
D'accord, je vais essayer. Bon,
voilà,
je...
sinon, on fera des grandes coupes.
D'accord. D'abord, merci pour cette invitation. Et je vais parler donc du corps et de l'argent, mais je ne vais pas malheureusement vous donner des anecdotes aussi savoureuses sur les prix à la semaine des prostituées. Puis en même temps, je ferai une incursion, mais très brève, sur la notion de consentement qui faisait partie un peu du tableau que je voulais présenter. Donc il s'agit plutôt d'une réflexion philosophique générale sur ce sujet. Et surtout sur ce que je pourrais appeler les incohérences de la notion de marchandisation du corps humain, qui est utilisée un petit peu comme une notion fourre-tout aujourd'hui, à droite aussi bien qu'à gauche. Tous ceux qui s'intéressent au débat public savent qu'il existe des notions contagieuses qui, loin d'éclairer le débat, contribuent à le rendre impossible. C'est le cas, je crois, de la notion de marchandisation, qui signifie en réalité deux choses complètement différentes. La première, c'est vendre ou acheter des choses qui ne devraient être ni vendues ni achetées. Et la deuxième, c'est se servir des autres comme des choses, des objets, de simples moyens. C'est une conduite qui est profondément immorale selon Kant et tous ceux qui le suivent. Dans le deuxième sens, la marchandisation n'implique pas logiquement le fait d'être vendu ou acheté. On peut se servir des autres comme si c'était des choses, des objets, de simples moyens, sans payer ou se faire payer. C'est ainsi que les plus puritains voient les relations sexuelles sans lendemain, même lorsqu'elles sont gratuites. Et c'est aussi pour cette raison que certains condamnent la gestation pour autrui, même s'il est concevable qu'elle puisse être gratuite autant qu'un tel service peut l'être. Les opposants au travail sexuel ou à la gestation pour autrui jouent sur les deux sens du mot « marchandisation ». Ils passent de l'un à l'autre quand ça les arrange, ce qui montre bien l'usage politique qu'ils font de cette notion. Ils commencent par exclure toutes les relations sexuelles éphémères et rétribuées ou la gestation pour autrui qu'ils disent nécessairement rémunérée, sous le prétexte que le corps humain n'est ni à vendre ni à acheter. Mais lorsqu'on leur demande s'ils accepteraient ces pratiques au cas où elles seraient complètement gratuites, ils changent de cheval, évidemment, et soutiennent que ce qu'ils condamnent en réalité, ce n'est pas le fait de vendre ou d'acheter, mais la transformation du corps humain en objet, ce qui est contraire à la dignité humaine. Et là, l'argument de la vénalité est passé à la trappe. Ce qui importe, c'est de ne pas être traité en objet, en simple moyen, rétribué ou pas, car c'est contraire à la dignité humaine. Alors, je vais essayer de clarifier ces deux sens du mot « marchandisation » et de mettre en évidence les incohérences de chacun. D'abord, le fait de vendre ou d'acheter des choses qui ne devraient pas être vendues ou achetées. Évidemment, il serait absurde de nier l'importance dans notre société de l'idée que les produits, les éléments du corps humain ne sont pas des marchandises, des choses qu'on peut vendre ou acheter. C'est cette idée que le principe de non-commercialisation du corps humain est censé exprimer. Une bonne partie des lois de bioéthique repose sur ce principe. D'après ces lois, les éléments et produits du corps humain, reins, lobes de foie, sang, sperme, ovocytes, moelle osseuse, peuvent être donnés à certaines conditions, mais ne peuvent pas faire l'objet d'une transaction à caractère commercial. Idéalement, pour les plus puritains, les services sexuels ne devraient être ni vendus ni achetés, comme l'affirment les défenseurs du projet de loi sur la pénalisation des clients de prostituées. Mais il faut bien faire attention que, jusqu'à présent, les différents interdits légaux qui pèsent sur la prostitution ne relèvent pas du principe de non-commercialisation du corps humain, lequel exclut toute vente et tout achat, même volontaire, des organes et des produits du corps humain. Les interdits légaux relatifs à la prostitution visent le trafic des personnes, les activités des souteneurs, la tranquillité du voisinage, l'exercice du métier par des sans-papiers, mais non la vente du corps humain et de ses produits. Les tentatives de criminaliser la prostitution au nom de la non-commercialisation du corps humain sont le fait de moralistes qui ignorent plus ou moins volontairement les justifications juridiques qui sont apportées aux sanctions pénales contre la prostitution. Mais il n'est pas évident, évidemment, qu'ils finissent par obtenir gain de cause. Toute la question philosophique est de savoir pourquoi cette idée et ce principe occupent une telle place dans nos jugements. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi le fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être vendues ni achetées, c'est si important. Est-ce que c'est pour des raisons éthiques profondes ou est-ce que c'est simplement pour des raisons sociologiques, je dirais ? À mon avis, c'est la deuxième réponse qui est la bonne. La ligne de partage entre ce qui peut être vendu et acheté a fluctué et elle n'est pas immuable, elle peut se déplacer selon l'état de la sensibilité sociale. Ainsi, il ne viendrait à l'esprit de personne aujourd'hui de penser que Placido Domingo devrait être puni parce qu'il fait du racolage passif en annonçant ses spectacles, où il en faisait, et qu'il demandait de l'argent en contrepartie de ses performances. Pourtant, au XVIIe siècle, les chanteurs d'opéra qui voulaient se faire payer étaient traités comme des prostituées. Pourquoi serait-il interdit de penser que ce qui s'est produit pour les talents du chanteur pourrait également arriver au talent sexuel et que la mise à la disposition d'autrui de ses capacités à donner du plaisir sera un jour mieux protégée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour revenir aux questions de bioéthique, pourquoi serait-il interdit de penser que progrès de la médecine aidant pourra voir les parties et les produits de notre corps non plus comme des choses quasiment sacrées, constitutives de notre identité, mais comme des objets aussi remplaçables qu'une table de cuisine ou une machine à laver. Ce point de vue déflationniste qui désacralise le corps humain, c'est celui que je défends, ses produits, ses parties, ses fonctions n'est pas facile à défendre dans le débat public, car il semble exclu par la dénonciation massive du phénomène, donc de la non-commercialisation du corps humain. J'essaye de sauter un petit peu, je ne sais pas si
non,
j'ai...
Non, mais allez-y, là, encore...
Bon... Bon, enfin, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le débat public sur la marchandisation se déroule dans la plus grande confusion. pensez aux arguments en faveur du contrôle de la diffusion des œuvres sur Internet. Parmi ceux qui défendent un contrôle légal avec des sanctions pénales sérieuses pour les contrevenants, certains le font au nom de la guerre contre l'ordre marchand qui dominerait la planète. En même temps, ils trouvent parfaitement légitime que des artistes soient payés pour leurs œuvres au prix du marché au nom d'un droit d'auteur qui serait sacré et intangible. Bon, là, il y a probablement une cohérence, mais elle est difficile à saisir. Une autre question est celle de savoir si en acceptant une rémunération, le donneur annule le caractère supposé altruiste de son geste. Elle n'a pas de réponse évidente. Personne ne semble penser que le médecin qui se fait payer est purement vénal et que son métier n'a aucun caractère altruiste. On pourrait dire la même chose de métiers comme professeur, assistante sociale, etc. Donc voilà, ça c'est les arguments rapidement évoqués contre cette idée qu'il y aurait un fond éthique derrière l'idée de marchandisation. Il y a simplement un état de la sensibilité sociale qui peut être modifié, qui le sera probablement. Je passe maintenant au deuxième sens de marchandisation. Se servir des autres comme des choses, des objets, de simples moyens, conduite donc condamnée par Kant, entre autres. Pour ceux qui endossent les idées de Kant, la gratuité ne suffit évidemment pas à prévenir la marchandisation. Ainsi, d'après eux, la GPA est une pratique condamnable dans tous les cas, parce que même si elle est gratuite, elle réduit la gestatrice à l'état de choses, d'objets, de simples moyens. Même chose pour le travail sexuel, clients et prostituées s'exploitent réciproquement en tant qu'objet que simple moyen, et cela c'est indépendant du fait qu'ils soient payés ou pas. En effet, pour Kant, toutes les relations sexuelles hors mariage sont jugées animales, inhumaines, dégradantes. Pourquoi ? Parce que quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est pratiquée, la sexualité en elle-même transformerait les partenaires en objets, en simples moyens de satisfaire leurs propres appétits. Alors, comme dit Kant, en citron qu'on jette après les avoir pressés, ou en rôti de porc qu'on mange pour apaiser sa faim, bon, selon ces images, on voit qu'il s'y connaissait mieux en cuisine qu'en sexe. Mais pourquoi serait-il immoral de traiter quelqu'un ou de se traiter réciproquement comme de simples objets ? N'est-ce pas parfois une source de plaisir en matière sexuelle, comme le suggérait Martha Nussbaum, une philosophe américaine, dans un article célèbre sur l'idée d'objectification. Pour Kant, ces pratiques sont immorales parce qu'elles portent atteinte à la dignité de la personne humaine, idée qui est à la base de toute sa construction. Mais que signifie exactement dignité de la personne humaine ? Pour Kant, certaines choses ont une valeur et pas de prix. C'est le cas de la personne humaine en tant qu'être capable de donner des raisons à ses actions et d'en être comptable. Être une personne est une propriété de grande valeur, mais elle n'a pas de prix au sens où cette valeur ne peut pas fluctuer selon les individus, leurs vertus et leurs vices. Même les pires criminels, bon, je m'abstiens de dire nazis pour ne pas faire encore un argument ad hitlérum, mais c'est aux nazis que je pense, évidemment, restent des personnes, et c'est bien pourquoi on les tient pour responsables de leurs actes, alors que ce ne serait pas le cas pour un cochon ou un robot. L'appel à l'idée de dignité de la personne humaine nous permet-il cependant de faire un tri suffisamment précis entre ce qui peut être légitimement acheté et vendu et ce qui ne peut l'être en aucun cas ? C'est douteux. On estime généralement que vendre ou acheter les services physiques d'un garde du corps, d'un militaire ou d'un gendarme, ce n'est pas porter atteinte à ses dignités. Pourquoi en va-t-il autrement pour les services sexuels ou la gestation pour autrui ? Qu'est-ce qui justifie ces exceptions sexuelles ? En fait, le problème philosophique est ailleurs. Kant n'a jamais bien expliqué à partir de quel moment exactement quelqu'un devenait un simple moyen. On utilise les plombiers, mais ça ne veut pas dire qu'on les voit comme des choses, de simples moyens, qu'on ne reconnaît pas leur humanité. Comment faire pour éviter de les traiter comme des choses ? Est-ce qu'il suffit de les payer équitablement ou de les remercier sincèrement pour qu'ils cessent d'être de simples moyens ? Ou peut-être un peu plus ou un peu moins ? Comment savoir ? De la même manière, on peut faire appel à une gestatrice sans la voir comme une chose, un simple moyen, sans nier son humanité. Il suffit peut-être de lui rendre visite de temps en temps ou de lui envoyer des fleurs pour son anniversaire, bon ça je ne sais pas si ça suffirait, pour ne pas les traiter comme de simples moyens. Là aussi, il en faut peut-être un peu plus ou un peu moins, mais comment savoir ? Et Kant ne nous a pas expliqué. Pour placer des limites au principe durement acquis de libre disposition de son propre corps, au droit de passer un accord mutuel sur son usage, l'argument de la dignité humaine est de plus en plus massivement exploité, mais il est confus, il sert à justifier tout et son contraire. C'est au nom de la dignité humaine que certains responsables politiques refusent de décriminaliser l'euthanasie ou le suicide assisté, même lorsqu'ils sont, il me reste encore un tout petit peu, clairement demandés par des malades incurables. Les grossesses pour autrui, même sans compensation financière, le travail sexuel, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est exercé, les jeux sadomasochistes, même lorsqu'ils sont faits d'adultes consentants, l'usage personnel de drogues, même lorsqu'elles sont dites douces. Mais l'appel à la dignité humaine sert aussi à justifier exactement le contraire. c'est la dignité de la personne humaine qui est censée fonder le droit absolu de chacun à disposer de son propre corps et celui, pour des adultes consentants, de s'engager dans un accord mutuel du moment qu'il n'a pas été extorqué et ne nuit pas à des tiers. Et c'est au nom de ces droits qu'on justifie l'euthanasie, le suicide assisté, les mères porteuses, le travail sexuel et l'usage personnel des drogues. Le pire, c'est lorsque l'argument de la dignité humaine sert à nous interdire de faire ce que nous voulons de notre propre vie, même lorsque nous avons mûrement posé notre décision et que par nos actions, nous ne causons de tort à personne. C'est ce qui s'est passé pour le lancer de nain, qui est interdit en France au nom de la dignité humaine, en dépit du fait que celui qui pratiquait cette activité, enfant d'une famille de gens du cirque, revendiquait son choix qu'il disait artistique. Dans ce genre d'affaires, l'argument de la dignité de la personne humaine est purement paternaliste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il est basé sur cette idée. Au fond, pas plus que pour l'idée de simple moyen, Kant ne propose un critère d'application suffisamment précis du principe de dignité. Il s'ensuit qu'il n'est souvent rien de plus qu'un slogan sans portée spécifique. Et je vais conclure sur les usages politiques du terme marchandisation. Le rejet de la marchandisation, quel que soit le sens exact donné à ce terme, mobilise aussi bien des personnes classées à droite, comme les supporters de la Manif pour tous, qu'à gauche. Il n'y a pas de différence profonde dans les déclarations publiques des deux camps, bien que les sources d'inspiration ne soient pas du tout les mêmes. À gauche, elles viennent plus souvent de Kant, de Marx, contre la réification, c'est-à-dire la transformation de la personne en objet, instrument au moyen ou service des fins d'autrui, ou d'Heidegger, contre le règne supposé désastreux de la technique dans les affaires humaines, y compris celles qui concernent la procréation. À droite, ce sont plutôt des directives de certains groupes de pression religieux qui donnent le ton. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'argument de la marchandisation peut être utilisé pour condamner tout et n'importe quoi, comme l'argument de la dignité humaine. Et c'est étonnant aussi de voir la droite bondir sur cet argument. Ainsi, lorsqu'il se répandait dans les médias comme porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre avait inventé une nouvelle raison de condamner la polygamie. C'était, disait-il, qu'elle a des fins essentiellement mercantiles. C'est une expression de la marchandisation du corps humain. Bon. Qu'elle est motivée par la cupidité, le désir de bénéficier de prestations sociales pour une quantité considérable d'enfants. Mais pourquoi n'en dit-on pas toujours autant du système d'allocation familiale ? La cupidité des parents est-elle le seul motif pour faire un troisième enfant ? Ne serait-il pas absurde de dire que le système de prestations sociales en argent est une expression abominable de la marchandisation qui a envahi les domaines les plus affectifs de l'existence humaine ? L'argument de la marchandisation du corps humain est vraiment tellement sélectif qu'il en devient suspect. Personnellement, je défends le droit des gens à disposer pleinement de leur corps et celui pour des adultes de passer un contrat privé du moment qu'il n'a été extorqué par la menace, le chantage, l'abus de faiblesse, ce qui revient à dire consenti librement et en toute connaissance de cause. Ce que je n'admets pas, c'est qu'un contrat puisse être annulé pour la raison de la dignité humaine. Mais tout le reste me convient parfaitement. Mais comment garantir un consentement ? J'ai marché un tout petit peu sur votre texte. Comment garantir un consentement libre et éclairé dans une procédure de GPA ou dans le cas du travail sexuel ? Garantir un consentement libre et éclairé n'est jamais facile. Ce n'est pas un problème spécifique à la GPA ou au travail sexuel. Pensez aux interventions médicales. Le consentement du patient, angoissé, souvent ignorant, est-il vraiment libre ou éclairé ? On peut en douter. Mais qui voudrait revenir à la sombre époque du paternalisme médical lorsque le patient n'avait rien à dire sur le sort qu'on lui réservait ? Le consentement reste important même lorsqu'il n'est pas idéal. Pourquoi devrait-il en aller autrement pour la GPA ou le travail sexuel ? Quoi qu'il en soit, il me semble que ce qui compte le plus, c'est d'exiger que les conditions du contrat de GPA ou de travail sexuel soient justes, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'ait été extorqué ni par la violence, le chantage, la menace, l'abus de faiblesse, et qu'il ne nuise pas délibérément à des tiers. Pour justifier ce point de vue, on peut, je crois, se passer de l'argument de la dignité de la personne et de toutes les implications confuses sur le traitement d'autrui comme une marchandise.
Merci.
Voilà.
Alors, en vous écoutant, notamment proposer qu'éventuellement on envoie des fleurs à la gestatrice de la GPA, Je me disais, est-ce que cet argument réussirait à convaincre Sylviane Agacinski?
Je ne suis pas sûre. C'est la seule chose dont je suis sûre.
Oui, d'accord. Voilà. Bon, alors, évidemment, on aurait tous et toutes des tas de questions à poser comme ça tout de suite, mais je pense qu'il vaut mieux que chacun présente le sujet pour lequel il doit être annoncé, dans la mesure où je voudrais aussi que non seulement que vous puissiez poser des questions sur tout ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse le plus, mais aussi que les intervenants puissent se discuter entre eux. Après tout, je suis pas sûre qu'ils soient tous totalement d'accord sur tout. Donc, pour ça, il faut qu'ils s'écoutent les uns les autres. Donc, je vais donner la parole maintenant à Jean-Raphaël Bourges, qui donc va répondre à la question « Tu veux ou tu veux pas ?» Sexe rétribué et consentement sexuel.
Oui, donc je vais aborder cette question du consentement sexuel. C'est une notion qui paraît assez évidente, facile à appréhender. Donc, comme je l'ai réduit dans mon titre, hein, c'est « Tu veux ou tu veux pas ?» On répond « Oui, non ». L'affirmative valide et la négative enlève toute légitimité à la sexualité. C'est un peu comme ça qu'on l'entend aujourd'hui, mais dès qu'on s'intéresse un petit peu de plus près à la notion de consentement sexuel, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple, qu'effectivement le consentement peut être aussi contraint, forcé, qui peut être dupé, qui peut être laisser libre cours à plein d'interprétations différentes. La question aussi de savoir, ça a été évoqué par Ruven Augien, c'est de savoir aussi à quoi on consent et dans quelle mesure on est capable d'apprécier à quoi on s'engage quand on consent à quelque chose. Pourquoi en parler aussi, puisque la législation française et européenne base les politiques consacrées aux sexualités sur cette notion du consentement pour assurer une liberté sexuelle aux individus. Donc le consentement sexuel, c'est une notion qui est apparue assez récemment, finalement, et qui s'inscrit principalement dans l'histoire du féminisme. Donc je vais évoquer les questions aussi et les arguments féministes sans empiéter complètement sur ma camarade. Mais comme le premier a déjà empiété sur mon territoire. mais rassurez-vous, j'évoquerai aussi les idées défendues par Ruven Augien en matière de consentement. Donc il me paraît, pour parler du consentement, ce que je vais faire, c'est d'abord rappeler le contexte historico-politique dans lequel cette notion apparaît, se défend. Pour ensuite évoquer, on va dire, trois manières assez fortes qui sont présentées aujourd'hui dans les arguments autour du consentement, et particulièrement ce qui nous intéresse durant ce colloque concernant la pornographie et la prostitution. Alors, pour revenir déjà juste sur l'histoire de la pornographie et de la prostitution, qui ont donc... ça n'a pas été encore évoqué, mais ça le sera certainement au cours de ce colloque, une étymologie commune. La pornographie, ça vient de porner, la prostituée graphène. C'est au départ, au XVIIe, XVIIIe siècle, la pornographie, ce sont les écrits savants, essentiellement, sur la prostitution. Il s'agit des traités sur la prostitution. Et il y a aussi une histoire commune, en ce sens où les premiers pornos vidéo, films, étaient des pornos tournés avec des prostituées dans des bordels le plus souvent. Et en fait, la pornographie, c'est avant tout, au départ, le sexe des bordels, donc le sexe des putains, qui s'oppose au sexe bourgeois, conjugal, qui lui est licite, propre, etc. Juste pour prendre un exemple, la fellation qu'on va pouvoir voir sur la pornographie fin 19e, début 20e, ou qui va se pratiquer dans les bordels, n'existe pas ou est très marginale dans le couple. Il est impensable d'avoir de telles pratiques dans le couple. On est dans un sexe autre. Donc, en fait, c'est nos sociétés qui s'appuient sur une idée, qui se construisent sur une idée de contrat social, qui divise la sphère publique et la sphère privée. On le voit bien là, entre une sexualité publique, des femmes de mauvaise vie et une sexualité privée, des femmes vertueuses que sont les mamans, donc dans cette opposition de la maman et de la putain, tandis que les hommes, eux, peuvent naviguer d'un lieu à l'autre, peuvent évidemment ont l'espace public à eux, mais aussi l'espace privé. Et d'ailleurs, Carol Patman, elle, parle en même temps du contrat social, du contrat sexuel qui s'établit et qui permet, elle parle de ça, de l'envers refoulé du contrat social. Et dans ce contexte, en fait, là, qu'on va trouver jusque, on va dire, la première moitié, voire les deux premiers tiers du XXe siècle, la notion de consentement sexuel est excessivement secondaire. Elle se pose évidemment, comment, pour les hommes, la question ne se pose pas, elle se pose d'ailleurs très peu toujours aujourd'hui. Quand on parle de consentement sexuel, on parle du consentement sexuel des femmes. Voilà pourquoi l'histoire du féminisme est très éclairante sur cette notion. Et la notion de consentement sexuel va être surtout défendue dans l'histoire du viol. Donc, j'étais obligé d'aborder un petit peu cette question du viol. Simplement parce que c'est vraiment le cœur est vraiment là où s'est déjouée la notion de consentement. Pour rappeler simplement le viol qui s'institue dans le code pénal en 1810, le viol est reconnu avant tout comme une atteinte à l'honneur de la famille. Une femme qui est violée, la victime finalement, c'est soit le père, pour une jeune fille non mariée, soit le mari. C'est toujours le tuteur qui est la vraie victime. Pour une première chose, c'est simplement que ce corps de femme qui lui appartient, dont il a la charge, va être déprécié. Va être déprécié sur le marché du mariage quand la jeune femme n'est pas encore mariée. Elle vaudra beaucoup moins, elle sera beaucoup moins facile à marier. D'ailleurs, très souvent, pour régler ça, on va la marier à son violeur. Qui permet de résoudre la question une fois. Et il y a aussi le problème, dans le cas du viol d'une femme mariée, de la légalité de la filiation et du risque, justement, de cette filiation impure. Et donc, pour le coup, faire reconnaître la vraie victime, entre guillemets, c'est-à-dire les femmes, en l'occurrence, comme victimes de ce viol, il a fallu défendre l'idée qui finalement a été appréhendée, mais qu'on ne voit seulement apparaître dans le code pénal à la fin des années 70, début des années 80. Et il faudra après aussi des décisions de justice qui soient rendues en ce sens, c'est pour voir enfin reconnue la femme victime de viol comme réellement victime. Et donc, du coup, c'est plutôt plus que le consentement, c'est le non-consentement qui va être défendu. Et cette idée, ce qui rappelle le slogan féministe, quand c'est non, c'est non. Et c'est tout là la difficulté. Et ce n'est pas parce qu'on est arrivé à franchir un pas et avoir une vraie évolution quant aux politiques sur cette question du consentement. Donc l'idée que quand on est entre adultes consentants, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. En fait, la notion n'est pas aussi évidente et on s'aperçoit, quand on s'intéresse un peu plus près, en fait, qu'elle n'est pas accordée à tout le monde. Comme je vous l'ai déjà dit, quand il s'agit des hommes, la question ne se pose pas. Il y a presque quelque chose qui va de soi. Un homme, de toute façon, est un sujet politique autonome qui est tout à fait capable de s'engager ou de ne pas s'engager dans une sexualité. À cette exception près, des gays, des lesbiennes, qui ont dû faire reconnaître, donc il a fallu faire passer par la dépénalisation de l'homosexualité, mais il y a eu aussi le combat pour reconnaître que la majorité sexuelle, donc qui est aujourd'hui à 15 ans en France, soit accordée aux hétérosexuels comme aux homosexuels, puisque dans un premier temps, la majorité sexuelle ne l'était que pour les hétérosexuels. L'homosexualité ne pouvait être légal qu'à partir de la majorité réelle, donc 18 ans, et non pas la majorité sexuelle. Et donc c'est dans ce contexte qu'on voit se développer tout un tas de débats autour de la notion de consentement, et entre autres, mais je pense que ma camarade le développera plus, mais il faut que je l'évoque quand même, dans les débats féministes, et notamment depuis la fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis, dans ce qu'on appelait les sex wars, les guerres du sexe en fait, et non pas la guerre des sexes, comme des fois on le traduit mal. Donc ça a été des grands débats qui ont été lancés autour des pratiques sadomasochistes, de la prostitution et de la pornographie. Débats qui sont arrivés plus dans les années 90-2000 en France et en Europe, et qui réapparaissent ces derniers temps, qu'on voit revenir toujours sur la question, moins sur la pornographie aujourd'hui que sur la prostitution, qui reste toujours en question. Et donc dans ce cadre-là, qu'on va pouvoir voir, je vais aborder trois abords qui ne sont pas forcément toujours évoqués dans les débats féministes, mais qui le sont en général. On a la première posture du féminisme radical qui a été développée avec des gens comme Catherine MacKinnon ou Andrea Dworkin, qui sont assez connus pour ça, qui ont fait toute une production légale. MacKinnon est juriste aux États-Unis, et il y a des villes, des comtés qui ont développé toute une législation anti-pornographie sur les idées, mais il faut MacKinnon est aussi à l'origine de la reconnaissance de la pénalisation du harcèlement sexuel aussi. Alors, de ce côté de ce féminisme radical, la question du consentement pour la prostitution ou la pornographie, elle ne se pose pas. Tout simplement, puisque la pornographie ou la prostitution, vu comme dit tout indistinct, il n'y a pas de nuance de savoir si on est volontaire, pas volontaire, ce que représente la pornographie, est-ce qu'il s'agit même de pornographie gay, où il n'y aurait que des hommes, peu importe. La prostitution, la pornographie, ce sont simplement l'expression ultime de la domination masculine, de l'appropriation du corps des femmes par les hommes, et la sexualité elle-même, telle qu'on la connaît, telle qu'elle s'organise, est de toute façon purement masculine et s'inscrit dans une société patriarcale de domination masculine. Donc on ne peut pas consentir à la prostitution, à la pornographie, et donc tout discours qui tendrait à dire, venant principalement des travailleuses du sexe, par exemple, est complètement invalidé. On les renvoie à l'idée qu'elles ont intégré totalement leur domination, qu'elles ne sont dans un état de servitude volontaire, et finalement qu'elles ne font servir le système prostitueur, c'est le terme consacré, et qu'elles ne font que servir ça, et que du coup, leur parole ne vaut pas. Alors évidemment, à cette approche un peu brutale de rejet complet, de consentement impossible, il y a plusieurs critiques qui peuvent être apportées, notamment une que je ne vais pas développer, puisqu'elle sera développée dans la table ronde suivante, sur l'idée développée par la notion d'échange économico-sexuel, développée par Paola Tabet, qui va gommer et montrer la non-pertinence de cette séparation qu'on fait entre un sexe, sexe et argent, qui serait du côté de la prostitution, de la pornographie, et d'une sexualité détachée des contingences économiques. Et donc, Paola Tabet, mais on ne le verra plus, donc je ne vais pas le développer, remet en cause. Et donc déjà, cette question-là, ce sera un argument à porter, puisqu'effectivement, dans cette condamnation, on a du féminisme radical, une condamnation qui s'inscrit à l'encontre principalement de la pornographie et de la prostitution. Moi, par ailleurs, j'ajouterais que nier à des travailleuses, des travailleurs du sexe le droit d'affirmer leur liberté à consentir, à formuler même un consentement, c'est ajouter de la violence à la violence aussi, mais c'est aussi les renvoyer dans une minorité. Parce que, comme l'a dit Ruven Ogier, qui dit consentement, dit contrat, donc un contrat entre deux parties, et pour contracter, il faut être majeur, il faut avoir une capacité politique. Et donc, en fait, on renvoie une fois de plus les travailleuses du sexe à un statut de minorité, comme l'ont pu être les femmes en général et les prostituées en particulier auparavant. Alors, on a une autre approche, que je ne vais pas forcément beaucoup développer, qui est une approche plus libérale, au sens philosophique du terme, qu'on va retrouver notamment avec des gens comme Ruven Ogier, avec une idée qui va, où on va se dégager complètement de toute idée morale, qu'on reprendre un peu la maxime populaire. Donc, si c'était entre adultes consentants, il y a l'idée qu'on n'a pas, et l'État surtout, n'a pas à intervenir dans les interactions, fût-elle rémunérée. Et donc, de ce point de vue, chacun est libre de faire ce qui lui plaît, comme bon lui plaît. Et qu'il faudrait assurer seulement aux personnes les plus vulnérables, comme les enfants par exemple, une protection dans ce cadre-là. Alors, y a, sur le principe, moi je suis entièrement d'accord et ça ne me pose pas de problème. Après, on peut se poser plus la question de qu'est-ce qui nous, puisque ça renvoie quand même à l'idée d'un contrat entre personnes, mais qu'est-ce qui permet à tout à chacun de prendre part presque comme égaux entre contractants. Il me semble que dans cette idée-là, ça omet un petit peu de savoir comment on parvient à cette capacité à consentir, à passer contrat, de comment ça oublie un petit peu les relations de pouvoir dans lesquelles on est tous pris, que ce soit des relations de genre, des relations économiques, de classe, ou même les questions raciales et postcoloniales qui peuvent se poser dans les rapports et dans lesquels, des rapports dans lesquels nous sommes déjà pris. Donc il y a dans cette approche libérale du consentement quelque chose qui est assez séduisant sur le papier, qui est tout à fait, il me semble, souhaitable, mais qui n'est peut-être pas aussi facile que ça à mettre en pratique pour bon nombre de personnes. Et ça peut être le cas, en tous les cas, dans le cas de la prostitution, principalement, a fortiori encore plus dans une société comme la société française, où là, le législateur ne suit pas tout à fait les idées de M. Augien et pense que non, on ne peut pas, malheureusement. Mais on est dans cet état de fait-là, on est dans cette société-là, où les choses ne sont pas aussi simples. Après, il y a une vision, on va dire, plus foucauldienne, qui prend le pouvoir non pas comme quelque chose qui s'appartient, mais comme une relation sur laquelle les gens qui sont pris peuvent influer, et qui est assez intéressante. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est que ce qui a donné lieu à des expériences pour la prostitution, à la constitution d'associations, de syndicats, d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe, mais aussi en Inde, en Amérique du Sud, de syndicats de travailleuses du sexe, et qui, pour le coup, ne se limite pas simplement à seulement la question du consentement, mais aussi aux conditions matérielles, justement, pour pouvoir consentir, pour pouvoir acquérir cette liberté. De la même manière, ce qui est né à partir des années 80, qu'on a appelé la post-pornographie ou la pornographie féministe, donc l'idée de femmes qui ont investi la pornographie, qui ont investi les rôles comme la réalisation dans la pornographie, ont permis aussi de changer les choses du point de vue de la production, de la réalisation, et donc aussi d'amener d'autres manières de faire, de demander aux actrices, aux acteurs, ce qu'ils avaient aussi envie de faire, s'ils voulaient le faire, c'est déjà une chose, mais surtout sur ceux qui voulaient le faire. Et là, il y a quelque chose qui me semble très intéressant. On me dit de conclure, donc je vais conclure. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, où on ne s'arrête pas seulement au consentement comme un acquiescement, une validation, c'est-à-dire dans le cadre de la pornographie, bon voilà, j'ai telle scène, telle chose à faire avec tel scénario, est-ce que tu es d'accord ou pas ? Ce qui est déjà un premier pas, ce qui est déjà une première avancée, parce que ça n'a pas toujours, et ça n'est pas toujours le cas dans la pornographie, mais il s'agit aussi de produire avec l'acteur, l'actrice. C'est pas seulement lui dire est-ce que tu es d'accord de faire, mais aussi qu'est-ce que tu voudrais faire, qu'est-ce que tu voudrais essayer, expérimenter. Et donc, ça renvoie à cette question non plus de savoir est-ce qu'on consent simplement, on acquiesce, on dit oui ou non, on est d'accord, on n'est pas d'accord, est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas, mais c'est plutôt de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais. Et il me semble qu'il y a peut-être plus à chercher sur à quoi on consent, de plutôt de savoir est-ce qu'on peut consentir. Voilà, je vais m'arrêter là pour conclure.
Merci. Voilà. Oui, j'ai un rôle ingrat de faire descendre le rideau, là, tout d'un coup, comme ça, quand la pièce n'est pas finie. Mais enfin, on va y revenir dans la discussion. Donc, je vais donner la parole à Armelle Andreau, Donc le maquis est le terrain de guerre des féministes. Parce que, enfin, en tout cas, moi, pour ce que j'en sais, c'est quand même assez âpre. Hein.
Alors, je vais sans doute pas l'aborder sous cet angle-là. Pour commencer, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je dois quand même honnêtement dire que je suis un peu terrifiée par l'ampleur du sujet que je dois aborder, d'autant plus que j'en suis pas spécialiste, loin de là. Il y a beaucoup de gens qui en parleraient mille fois mieux que moi. Mais bon, d'une part, j'ai consenti à participer à cette table ronde.
Voilà.
Ben, ça, je vous dirai après. Et d'autre part, que je suis féministe et je travaille sur la sexualité. Donc, je vais arrêter de faire la fille et je vais me lancer et donc essayer de vous présenter quelques éléments de réflexion sur les féminismes, le statut de la sexualité et de la prostitution. Alors, je remercie tout de suite Janine Mossus-Lavou de m'avoir accordé le droit de limiter mon propos à ce thème en laissant de côté, contrairement à ce qui était dit dans le programme, la question de la pornographie, parce que quand même, en 15 minutes, il ne faut pas rêver non plus. Et par ailleurs, la suite de ces deux journées laisse une large place à cette question. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter un panorama historico-théorique, on va dire, de la manière dont les différents féminismes ont abordé la question de la sexualité. Et dans un deuxième temps, je tenterai d'apporter des éléments pour comprendre comment la prostitution trouve ou ne trouve pas sa place dans ces analyses et les enjeux, les débats que ça soulève pour les pensées féministes. Alors, dans les féminismes, donc je parlerai au pluriel tout au long de mon propos, pour ne pas parler du féminisme, mais des féminismes. La sexualité est l'un des espaces de pouvoir et de lutte pour l'émancipation des femmes. On peut même dire que pour les différents courants de pensée féministes, ce qui se joue dans la sexualité est au cœur des rapports de pouvoir entre les sexes. Alors, si les féministes de la première vague se sont surtout mobilisées sur les questions de droits sociaux et politiques, confinant du coup la sexualité essentiellement dans le domaine de la santé, ce sont les féministes de la deuxième vague, à partir des années 60, qui se sont saisies de la sexualité comme lieu d'expression le plus prégnant de l'aspiration à la libre disposition de soi. Donc c'est à la fois dans la double perspective de la revendication des droits des femmes à disposer de leur corps, et d'autre part à la reconquête, ou plutôt à la conquête de leur sexualité, que cette dernière s'est placée au cœur des enjeux politiques et théoriques de cette période, et donc au cœur des débats qui structurent et font avancer les mouvements féministes. Alors la première perspective autour de la revendication pour les droits à disposer de son corps a donné lieu à une lutte massive et connue de tous dans le champ politique. On en a fêté un moment important en France il y a quelques jours avec les 40 ans de la loi de 1974 légalisant l'IVG. Cette mobilisation donc, a abouti à reconnaître les droits des femmes à maîtriser leur fécondité. Un enfant, si je veux, quand je veux. Donc juste pour rappel, la pilule a été légalisée aux États-Unis en 1960 et a commencé à l'être sérieusement en France en 1967. Alors ce moment des féminismes, la libéralisation de la contraception, a permis d'un point de vue pratique de dissocier la sexualité des risques de grossesse. Et ce moment a donc constitué un puissant levier d'émancipation féminine et a libéré en partie la sexualité de la majorité des femmes et des hommes de la crainte d'une maternité non prévue ou d'une maternité subie. Alors la deuxième perspective autour de la conquête ou de la reconquête de la sexualité par les femmes, cette deuxième perspective a abouti à critiquer et à remettre en question les cadres sociaux de la sexualité, tant en matière de pratiques sexuelles qu'en matière de représentation de la sexualité. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer que la sexualité est devenue un véritable enjeu politique pour les mouvements féministes. Va se développer une critique systématique et une dénonciation des contraintes patriarcales qui s'exercent sur la sexualité des femmes. Donc là encore, il y a plusieurs domaines de réflexion et de militantisme qui sont nés de cette critique initiale. On peut, je pense, mon propos est toujours un peu réducteur, mais de mon point de vue, il est intéressant de dégager deux points de réflexion importants à partir de cette critique. C'est d'une part tout ce qui relève de la réflexion sur le plaisir sexuel des femmes, et d'autre part, donc là je reviens sur des éléments qui ont déjà été abordés par mon camarade, sur ce qui se joue dans l'échange sexuel. Alors, si je reviens dans un premier temps sur la question du plaisir sexuel des femmes, on peut dire que dans le cadre de ce qu'on a pu appeler la libération sexuelle, même si le terme est, avec le recul historique, très critiqué, les féministes vont militer pour la réappropriation par les femmes de leur plaisir sexuel et prôner ce qu'on peut appeler le développement d'un savoir-faire sexuel féminin. Alors on peut citer ici l'article fondateur de Anne Keut, publié en 1970, « Le mythe de l'orgasme vaginal », donc publié dans le numéro « Libération des femmes année zéro » de la revue Partisan, dans le fameux numéro de la revue Partisan. Alors, dans ce contexte, on va redécouvrir le clitoris, qui avait disparu depuis un siècle à peu près, comme organe de plaisir. Bon, il est encore tout petit à l'époque, il va falloir attendre le début des années 2000 pour qu'il prenne toute sa place. Mais néanmoins, donc, on redécouvre le clitoris comme organe de plaisir. On remet en cause l'efficacité de la sexualité génitale pénétrative. Et les mouvements féministes redéfinissent de ce fait les contours d'une activité sexuelle féminine qui recherche son propre plaisir et n'est plus au service du couple ou du plaisir sexuel du conjoint ou du partenaire, quel qu'il soit. Dans cette période, la sexualité lesbienne, notamment, apparaît comme une mise en pratique radicale de la théorie féministe, puisqu'elle permet de s'extraire totalement de la contrainte hétérosexuelle et reproductive qui structure les normes de la sexualité. On peut se référer ici aux articles de Monique Wittig, La pensée straight, ou de Adrienne Rich, La contrainte à l'hétérosexualité. Alors, bon, comme d'habitude, autour de ces questions, certains désaccords théoriques et politiques entre féministes vont émerger, nourrir des débats politiques, animer les colloques scientifiques et les différents comités de rédaction des revues féministes de l'époque. Alors, par la suite, le développement d'un mouvement féministe sex-positive ou encore pro-sexe est venue proposer une perspective théorique et pratique, encore une fois, parce que si les féministes, elles font toujours ça, toujours théorique et pratique en même temps, donc est venue proposer une perspective théorique et pratique nouvelle sur la question du plaisir sexuel des femmes et plus largement sur les pratiques sexuelles en prônant au-delà de la liberté sexuelle des nouvelles formes d'expression sexuelle féministe, allant au-delà des carcans de la sexualité hétéronormée, génitale et reproductive. Alors, on peut se référer ici aux travaux de Gail Rubin, par exemple, ces approches qui défendent donc une perspective radicale de la sexualité qui permet de subvertir et de repenser les contours des sexualités socialement acceptables en élargissant le champ de la sexualité et en diversifiant, les modes d'expression. Donc il y a une séance, je ne détaille pas, il y a une séance qui reviendra sur ces questions demain. D'autre part, et parallèlement, la critique et la dénonciation de la sexualité patriarcale ont produit des réflexions, là encore théoriques et politiques, sur ce qui se joue dans l'échange sexuel, et tout particulièrement ce qui se joue dans l'échange sexuel hétérosexuel. Là encore, il y a deux questions qui vont émerger de cette posture critique. D'une part, la mise à jour de l'ampleur des violences sexuelles et plus généralement de la place et du statut de la violence dans la sexualité hétérosexuelle. Et d'autre part, la question de l'échange économico-sexuel dont on a déjà parlé. Alors, pour ce qui concerne la question des violences, ce que les féministes ont démontré, ont mis en évidence, c'est que l'échange sexuel hétérosexuel est l'un des lieux particulièrement prégnants de danger pour les femmes. Mais au-delà, en dévoilant l'ampleur des violences sexuelles, les féministes ont montré en quoi le viol n'est pas seulement l'une des formes les plus abouties de la domination masculine, il est aussi un moyen d'intimider et de maintenir les femmes dans leurs conditions, en étant l'une des dimensions de leur objectivation et de leur subordination. Donc là encore, je réfère aux auteurs bien connus qui ont déjà été cités, Andrea Dworkin ou encore Catherine McKinnon, qui sont les référentes incontournables sur cette dimension. Ces analyses conduisent à penser que la sexualité est finalement structurellement une zone de danger pour les femmes. Alors pour, là encore, historiciser un petit peu, en France, la lutte contre le viol s'est réellement formalisée dans le champ politique au milieu des années 70, comme tu l'as déjà dit. Elle s'est traduite donc en 1975 par un travail et une mobilisation conjointe d'associations dont l'objectif était la défense des femmes victimes de violences conjugales et un certain nombre d'avocates, dont Gisèle Halimi, qui effectivement ont conduit à ce que, en 1980, il y ait une refonte de la législation sur le viol en France permette de criminaliser de manière plus efficace que jusque-là le traitement de ce crime. Donc, alors, cette lutte collective menée en France, mais comme dans de nombreux pays, et menée aussi au niveau international, s'inscrivait dans la volonté de rendre visibles les violences sexuelles comme étant un des éléments de l'ensemble des violences faites aux femmes, de lutter contre la tolérance à leur égard et d'insister sur le rôle central des violences sexuelles dans les systèmes d'oppression des femmes. Voilà, on sait toute la place, les travaux sont aujourd'hui assez nombreux pour montrer par exemple comment le viol peut, dans tous les conflits qu'on a pu traverser tous les pays du monde, le viol est utilisé comme arme de guerre. Alors dans le même temps, comme je l'ai dit, donc il y a les violences, mais aussi la question de ce qui se joue dans l'échange sexuel. Donc il n'y a pas que des violences, il y a aussi autre chose, ou en tout cas d'autres féministes ont étudié d'autres dimensions. Donc l'échange sexuel va être analysé comme l'une des formes d'échange dans les sociétés humaines, au même titre que notamment les échanges économiques. Donc, confère les travaux de Paola Tabé qui seront abordés dans la séance suivante. Cette perspective force à sortir du postulat qui est effectivement souvent difficile à dépasser, qu'il existe un clivage indépassable, justement, entre les transactions économiques d'un côté et les relations intimes de l'autre, les deux faisant, là, pour, je cite Paola Tabet, partie de mondes inconciliables. Ça résonne un peu avec ce que Jeannine Ossus-Lavaux disait en introduction. Donc, dans ses travaux anthropologiques, Paola Tabet montre de manière très convaincante l'existence d'une continuité entre toutes les formes d'échanges sexuels, et elle remet donc en cause l'opposition binaire historique entre la sexualité conjugale et la sexualité rémunérée, au sens où, dans les deux, on peut observer des échanges du même ordre. Autrement dit, elle amène à repenser ce qui partage la sexualité légitime et illégitime, et donc propose cette notion tout à fait stimulante de continuum des échanges économico-sexuels. Bon, j'empiète pas sur la séance consacrée au super ouvrage qui vient de sortir sur le sujet. Voilà. Donc, retenons jusqu'ici de tout ce que j'ai dit, et pour continuer à tracer à grands traits les choses, retenons jusqu'ici que trois des étapes importantes du développement de la pensée féministe autour de la sexualité depuis les années 70 ont été, d'une part, de définir les formes du plaisir sexuel des femmes et d'interroger les cadres sociaux de la sexualité, d'autre part, de mettre en évidence le caractère potentiellement ou structurellement, selon les points de vue, oppressif et dangereux de la sexualité telle qu'elle existe dans les sociétés patriarcales, et enfin de montrer que toutes les formes d'échanges sexuels peuvent se penser selon la même grille, quel que soit le contexte de leur exercice. Bon, c'est très simplificateur par rapport à l'ensemble des propositions théoriques, mais... Et puis, par rapport à tout ce qui a émané des mouvements féministes de tous les pays du monde, mais disons que ça me permet de donner une grille d'analyse pour conclure mon propos, qui est donc, voilà, qu'en est-il alors de la prostitution dans cette sorte d'échiquier théorique et politique que j'ai tenté de dessiner à grands traits ? Donc là encore, je me limite à dresser une sorte de panorama du champ des positionnements en étant très simpliste. Alors, la prostitution, si on la définit comme l'échange de relations sexuelles contre rémunération, constitue un objet particulièrement difficile à intégrer immédiatement dans la grille d'analyse féministe. Et l'histoire heurtée qu'on a rappelée en introduction des relations entre les mouvements féministes, le monde de la prostitution, les prostituées féministes, est évidemment le résultat de cette complexité. Alors, il me semble qu'on peut dégager trois approches. La première, pour une partie des mouvements féministes, la prostitution est de manière structurelle une des expressions dramatiques de l'oppression patriarcale qui objective les femmes et met leur corps au service des attentes sexuelles des hommes. La prostitution apparaît alors comme l'une des conséquences du système patriarcal capitaliste qui contraint un certain nombre de femmes et certains hommes à faire commerce de leur corps sexuel. Donc là, je rebondis sur ce que disait Rouen Augien dans la première intervention. Cette contrainte peut s'exercer par la contrainte économique, pas d'autres sources de revenus possibles, ou par la violence. Et dans cette perspective, si on va jusqu'au bout de l'analyse en termes d'objectivation du corps des femmes ou des corps assimilés au corps féminin, on peut alors penser que c'est bien leur corps que les personnes prostituées sont contraintes de transformer en marchandises. Et c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, qui est moralement et éthiquement inacceptable. La perspective... féministe, si on adopte ce point de vue, la perspective féministe sera alors de lutter pour faire disparaître cette forme de violence sexuelle au même titre que toutes les formes de violence sexuelle. Deuxième positionnement que je propose d'identifier pour une partie des mouvements féministes, si la prostitution est bien une forme dramatique de l'oppression patriarcale, elle reste intelligible comme l'une des formes possibles de l'échange économico-sexuel. Elle s'inscrit dans le cadre des différents types de relations qui, dans le système patriarcal, ont organisé et organisent les relations sexuelles entre les hommes et les femmes. Et en ce sens, comme dans les formes d'union légitimes qui organisent la sexualité, elles procurent des compensations financières en échange de services sexuels. Dans cette perspective, c'est alors un service qui est vendu et non plus un corps objectivé. L'enjeu d'une approche féministe de la prostitution peut alors rester une perspective de suppression de cette forme d'échange qui est jugée trop inégale et relevant de l'exploitation économique, ou alors il peut être de le réguler et de le légitimer au même titre que les autres formes d'échange économico-sexuel. Troisième positionnement que je propose de retenir aussi, pour une partie des mouvements féministes, la prostitution est historiquement une forme d'oppression patriarcale. Et la transformation des cadres sociaux de la sexualité laisse envisager la possibilité de penser pour la prostitution, comme pour les autres formes d'échange de sexualité, d'autres modalités d'expression et une diversification des formes de travail sexuel. Comme on a pu le voir au XXe siècle, avec l'apparition du travail de la pornographie, confère Mathieu Trachman. L'enjeu d'une approche féministe de la prostitution apparaît alors ici comme une nécessaire historicisation de la prostitution et qui relève plus d'un phénomène social évolutif qu'il s'agirait là encore plutôt de réguler. Ça y est, c'est fini. Dans ces trois propositions, un point important, le constat initial est identique. La prostitution, telle qu'elle est inscrite dans le système patriarcal, est structurellement inscrite dans les rapports inégalitaires et asymétriques qui caractérisent les systèmes de genre. C'est dans la suite du raisonnement que les perspectives d'analyse divergent et conduisent à proposer des analyses théoriques et donc politiques qui peuvent être différentes, voire opposées. Les débats récents ont montré comment sur cette question comme sur d'autres. Je n'ai pas abordé donc la question de la pornographie, mais finalement les propositions qu'on aurait pu faire sont relativement proches. La question de la sexualité comme fait social est un objet d'autant plus compliqué à appréhender pour les analyses féministes qu'il se situe au cœur de ce qu'elles cherchent à déconstruire et à transformer. Ce qui produit, c'est ma dernière phrase, dans cet espace politique et théorique, plus que des guerres, je dirais des débats passionnés et dont il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont passionnants et qu'il y a une nécessité importante à les continuer. Voilà.
Merci. Alors, avant... disons, de faire réagir peut-être les uns les autres sur les différentes contributions. Je propose d'abord que vous, dans la salle, vous posiez vos questions et réagissiez, parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps, on a 20 minutes pour discuter. Et donc, avant de vous donner la parole, je voudrais simplement ajouter, pour compléter ce que vient de dire Armel, la toute fin, c'est-à-dire la partie, je dirais, pratique et visible quasiment tous les jours, que ce soit dans les médias ou les différentes rencontres, réunions, etc., des féministes, les affrontements qui se passent, parce que je crois que ça a du sens pour tout ce qu'on raconte ici, parce que si on veut, opposer au fond de groupe, enfin de pôle, hein, parce qu'entre les pôles, il y a toujours des un continuum, mais vous avez un pôle, effectivement, de féministes qui veulent, je dirais, éradiquer la prostitution, bon, terme employé par Najat Vallaud-Belkacem et bon, d'autres à sa suite, parce que c'est une atteinte à la dignité des femmes, c'est la domination masculine, c'est une violence faite aux femmes. Voilà, tout ça, c'est ce pôle-là. Il y a un autre pôle de féministes qui disent... alors là, avec l'argument entre adultes consentants, celles qui sont libres, indépendantes, qui veulent gagner leur vie comme ça, bah, c'est leur droit le plus strict. Et après tout, on s'est battu pour le droit de disposer de notre corps, contraception, IVG, etc. On a le droit aussi de disposer de notre corps si on veut, au fond, gagner notre vie, vivre et faire vivre nos familles comme ça. Donc, alors, simplement pour... Et qui considère... Alors, ce groupe-là considère que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est améliorer la situation des prostituées et considère aussi que toute mesure répressive, que ce soit la LSI de 2003 avec le délit de racolage public, donc passif incriminé, ou ce qui est prévu aujourd'hui si la proposition de loi arrive un jour à terme, c'est la pénalisation du client, considère que tout ce qui est répressif pousse la prostitution dans encore plus de clandestinité, donc expose les prostituées à encore plus de difficultés, de dangers, etc. Alors, si on veut, je terminerai là-dessus, simplement, au fond, en sortir les deux visions un peu caricaturales que chaque groupe essaye de donner de l'autre, parce que c'est quand même un peu comme ça que se font les affrontements, c'est-à-dire d'un côté, vous avez des féministes qui veulent éradiquer la prostitution et qui traitent l'autre pôle, je dirais, de libertaire naïve, et vous avez des fameuses libertaires naïves, qui considèrent que le pôle de celles qui veulent éradiquer la prostitution, ce sont, disons, des puritaines incompétentes. Voilà. Alors, avec ça, vous voyez les affrontements qu'il peut y avoir. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était assez hard. Bon. Alors, est-ce que, voilà, dans la salle, il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions à nos trois intervenants?
Alors, je poserai une question qui peut-être s'adresse aux trois intervenants, mais peut-être plus particulièrement à M. Augier. La question qui se pose pour moi, c'est qu'on ne fasse pas de différence entre ce qui est appelé la personne humaine et le corps. Je pense qu'il faut... Le corps, le statut du corps ne peut pas s'assimiler à la personne humaine. Donc, la référence à Kant me semble dépassée au XXIe siècle, siècle de la marchandisation. Et j'aimerais simplement dire rappeler l'incidence de la Shoah dans la question de la réduction du corps à un objet. En effet, ça a déjà commencé dans les camps de concentration. Et il serait temps que l'on revienne à cette question-là pour justifier, pour fonder ce qu'il en est du corps aujourd'hui. Comment peut-on considérer le corps? D'une part, c'est une première question. La seconde question concerne le dernier exposé qui a été fait par Mme Andreau. Elle parle du féminisme, bien sûr, de la prostitution féminine, mais y est omis la prostitution masculine. Pourquoi?
Alors, qui veut répondre, Ruben? Non?
Oui. En gros, si j'ai bien compris, vous pensez qu'il est possible de faire une dissociation entre le corps et la personne?
Oui.
Oui. Et ensuite, pourquoi avez-vous donné l'exemple de l'extermination et...
Parce que c'est là que, si vous voulez, le corps a été c'est à partir des camps de concentration qu'on a assisté à cette horreur de la réduction de la personne humaine à un objet déchet. Donc il s'agit aujourd'hui, au XXIe siècle, de voir quel statut on peut donner au corps aujourd'hui, en dehors de la question de la personne humaine, au-delà de la question de la personne humaine. Surtout qu'on est à l'ère de la marchandisation, comme vous dites. Vous le rappelez. Et ce n'est qu'une continuité avec ce qui s'est joué au niveau de la Shoah.
Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres...
De la prostitution masculine. Alors, tout dépend de ce que vous entendez par prostitution masculine. Au sens où est-ce qu'il s'agirait d'hommes se vendant leurs services sexuels à des femmes ou d'hommes vendant leurs services sexuels à des hommes?
Les deux.
Alors oui, je n'ai pas parlé de la prostitution masculine au sens des hommes qui vendent leurs services sexuels à des femmes parce que je ne sais pas si ça existe et je ne connais pas très bien le sujet.
Je reviens.
Mais par contre, oui, pour ce qui concerne la prostitution, au sens où l'acheteur ou le client est de sexe masculin, j'intégrais en parlant des corps assimilés l'ensemble des services sexuels, quel que soit le sexe ou l'identité sexuelle des personnes concernées.
Vous voulez ajouter ? J'ajouterai aussi, oui, d'accord. Allez-y.
La question de la prostitution masculine qui, oui, existe. Existe une prostitution gay, une prostitution hétérosexuelle, même si elle est marginale, effectivement. Il ne faut pas oublier, rappeler, effectivement, que la grande majorité de la prostitution en France comme ailleurs est avant tout une prostitution des femmes et c'est pas un hasard et ça rentre justement la contestation et la discussion sur la prostitution c'est effectivement fait auparavant et ça a été rappelé par les précédents intervenants sur les questions notamment de moralité, de moralité publique, etc. Et c'est plus récemment que c'est dans les débats féministes et concernant les femmes. Et donc, effectivement, les débats féministes ont un peu omis la question des hommes, mais qui ne se posent pas forcément seulement sur une question de genre. Et c'est peut-être pour ça que ça a échappé aussi au débat féministe, mais aussi sur une question de classe et aussi de race, entre guillemets, le mot race, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, si on constate par exemple la prostitution masculine, telle qu'elle peut se faire par exemple Porte Dauphine, si on donne des adresses à Paris, le long du bois de Boulogne, la prostitution masculine est le fait surtout de migrants et principalement de migrants sans papier. Donc effectivement, là, il y a une dimension qui est autre et qui est effectivement très très peu abordée. Elle existe évidemment, mais aussi. Le fait qu'on laisse de côté la prostitution masculine, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question du consentement. On n'interroge pas le consentement des hommes. Quand il y a des réflexions sur le consentement, le consentement est abordé de pleine manière, par exemple dans la littérature savante, de pleine manière. Il est rarement abordé en tant que tel. Il y a quelques ouvrages ou articles. Il y a celui Nicole Claude Mathieu, Quand céder n'est pas consentir, qui date de 85, qui a été réédité en 91, qui est un article phare dans la question du consentement. Il y a aussi le livre de Geneviève Fraisse plus récemment. Mais à chaque fois, on pense le consentement des femmes dans une société genrée. Et ça demanderait certainement une réflexion autre sur la question de la sexualité qu'un abord par le genre. Et effectivement, les questions de sexualité, de prostitution notamment, sont aujourd'hui surtout et essentiellement abordé dans les études de genre. Voilà aussi pourquoi on oublie un petit peu la prostitution masculine. Oui.
Alors, je voudrais ajouter, parce que Armel disait la prostitution masculine, au fond, je ne sais pas si ça existe. Bon, je crois que vraiment, la prostitution des hommes pour des femmes hétéros acheteuses de services sexuels masculins, bien sûr que ça existe, et depuis très longtemps. Simplement, on en parle très peu. Parce que, alors ça, c'est encore plus tabou que d'autres choses, disons que ça commence à être de plus en plus connu. Alors, bien sûr, quand on commence à en parler, on parle d'abord de ces femmes mûres et ayant pas mal d'argent qui vont sur les côtes africaines ou en République dominicaine ou ailleurs pour s'offrir les services sexuels de beaux jeunes gens athlétiques et désireux d'avoir un peu d'argent parce qu'ils n'en ont pas autrement. On commence à en faire des films, on commence à en parler. Et puis, on commence aussi à parler, bon, par exemple, Josiane Balasko, dans son livre, dans son film, des femmes, notamment cadres, qui choisissent des hommes sur Internet, sur des escort boys, et après, c'est plus si affinité. Mais je veux dire que c'est très facile à trouver, qu'il y a d'autres pays, par exemple au Japon, vous avez les rues dites chaudes, qui sont, comme au Japon partout, extrêmement propres, extrêmement, pas du tout, je veux dire, étiquetées avec toutes sortes de choses qui laisseraient imaginer que vous avez des boîtes, en fait, des maisons devant la porte, donc sur le trottoir, un grand panneau avec des photos de jeunes gens qui sont ceux qui sont à l'intérieur de la boîte, puisque c'est une boîte plutôt réservée aux femmes, évidemment, et qu'elles peuvent choisir comme ça, et c'est au vu de tout le monde, et elles peuvent entrer et dire, voilà, je voudrais celui-là, est-ce qu'il parle anglais, bon, on prend un verre, et puis après, c'est aussi plus ses affinités. Je veux dire que ça, c'est quand même quelque chose qui est dans plusieurs endroits tout à fait public. Alors, c'est vrai qu'en France, alors les féministes, et en tout cas, et toutes les personnes, notamment les politiques, qui veulent, qui en ce moment proposent la pénalisation du client et qui veulent éradiquer la prostitution, balayent toujours l'argument de prostitution masculine pour les femmes d'un revers de main en disant mais c'est tellement minoritaire, on ne va pas s'occuper de ça, etc. Alors que c'est quand même beaucoup plus répandu qu'on le pense. Alors pourquoi est-ce que c'est encore tabou? Pourquoi on ne le sait pas suffisamment et pourquoi tout le monde croit que ça existe presque pas? C'est parce que, notamment, les femmes qui ont recours à des prostituées masculins, et on a pu interroger notamment des hommes quand on a fait notre enquête qui effectivement se prostituaient pour des femmes et gagnaient comme ça d'ailleurs beaucoup d'argent, mais ces femmes évidemment elles s'en vendent pas, elles le racontent pas, parce que dire disons publiquement qu'on a payé un homme pour une femme, ça peut être une blessure narcissique. Je veux dire, ça veut dire, bah, j'ai pas été foutu de séduire quelqu'un, donc je paye un mec qui, bon, rendra le même service, pas forcément comme on voudrait, mais en tout cas, c'est quand même comme ça que ça se passe. Et ce qui fait que, bah, on en parle peu, et que, bon, disons que les confidences mettent un peu de temps à arriver. Mais on sait très bien, quand on travaille un peu sur ces sujets et quand on connaît un petit peu le milieu et tout ce qui peut s'y passer, que c'est quand même beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Voilà. Donc je voulais simplement préciser ça. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions ici,
oui. Pardon. Oui. Bonjour, Philippe Stanisière, militant féministe. J'aimerais vous poser une question. Je trouve qu'il y a une dimension qui n'a été pas abordée. C'est plutôt une dimension, je dirais, de catholaïcité ou de théologie par rapport au corps, et notamment l'indisponibilité du corps, qui est quand même plutôt catholique en France, et qui joue quand même beaucoup sur la perception qu'on peut avoir des échanges sexuels tarifés. Alors, moi, je n'utilise pas le terme de prostitution, j'utilise plutôt le terme d'échange sexuel tarifé, qui rentre plutôt dans une logique d'économie sexuelle. Donc, ça veut dire qu'on n'objective pas les corps et qu'on est dans les échanges. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette question n'a pas été abordée dans les échanges qu'on a pu entendre entre vous, oui, dans un premier temps. Peut-être au début, alors que je n'étais pas là, mais voilà. Mais c'est plutôt une question pour Ruven, oui, alors à ce moment-là.
Oui. Mais Ruven, en fait, il faut faire une différence entre le principe de non-commercialisation du corps humain et ce qu'on appelle la non-disponibilité. Souvent, c'est confondu dans les arguments. Le corps humain est disponible dans le sens où vous pouvez donner vos organes, vous pouvez avoir des relations sexuelles du moment qu'elles sont gratuites. Et bon, j'ai donné des cas comme celui de la GPA où c'est interdit, même si c'est gratuit. Mais en tous les cas, les deux arguments ne sont pas du même ordre. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps, disons en principe, sauf exception, à moins de vouloir en tirer bénéfice. Le principe de non-commercialisation du corps humain, lui, il s'attaque à cette question des échanges de corps contre l'argent. C'est pas la même chose. Si vous voulez, souvent, on utilise le terme de non-disponibilité pour parler de la prostitution. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait dire, enfin ce que j'ai envie de dire sur votre question.
De Saint Paul qui dit que le corps n'appartient pas aux chrétiens.
Voilà, exactement.
Qui est quand même,
oui,
utilisé classiquement.
C'est ça que je voulais vous dire au début. J'avais un peu oublié en chemin. Mais,
qui est quand même utilisé en droit et qui permet effectivement d'enlever la parole aux personnes. Je dirais notamment aux personnes qui ont des échanges sexuels tarifés, où on se permet souvent de parler à leur place avec cet argument. Voilà.
Vous savez, c'est un argument qui est utilisé aussi pour le suicide. Pour le suicide, c'est une façon de condamner le suicide, c'est une façon de dire que votre corps ne vous appartient pas. Ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure, il faudrait voir dans quelle mesure c'est la conception que vous rappelez, elle est liée à la prostitution. C'est-à-dire, vous n'avez pas, mais j'y reviendrai à la fin dans notre discussion, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez de votre corps parce que votre corps ne vous appartient pas au fond. Et c'est aussi un argument qu'il faut réussir à repousser et pas prendre sans réfléchir cet argument disant que notre corps est à nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec cette idée.
Je vais peut-être ajouter quelque chose parce que vous avez abordé dans votre question très, très rapidement, qui est le parler à leur place. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans tous les... pour la loi, la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2013 et qui est toujours en instance éventuellement d'aller au Sénat puis ensuite retourner à l'Assemblée nationale. Bon, on ne sait pas si ça se fera, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui œuvrent pour ça. Les commissions parlementaires, il y en a eu beaucoup qui se sont succédées, qui ont fait des gros rapports après avoir auditionné énormément de gens de tous les secteurs, de la police à des tas d'intervenants. Et comme, je ne dirais pas par hasard, parce que c'était quand même très voulu, il n'y a pratiquement pas... les seules femmes prostituées, enfin, ayant connu la prostitution, qui ont été interrogées, ça a été d'anciennes prostituées qui avaient quitté la prostitution et qui, effectivement, ont maintenant un discours, c'était l'horreur, il faut éviter ça, enfin bon, un discours d'éradication. Mais celles qui sont actives, qui continuent, qui ont envie de continuer, etc., ça, on ne les a pas entendues. Et ça, c'est parce qu'il y a quand même une conviction, je veux dire, chez toutes les personnes qui veulent justement éradiquer la prostitution, c'est que la prostitution, s'oppose à la conscientisation des personnes. C'est-à-dire que les personnes qui se prostituent, du fait qu'elles se prostituent, sont contaminées par une espèce de virus qui fait qu'elles ne savent pas ce qu'elles font, elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font, elles ne savent pas ce qu'elles disent. Disons qu'il y a une espèce de, je dirais, de considération... Voilà. Une considération comme quoi elles ne sont pas conscientes et leur parole n'est pas crédible ni audible. Donc tout ce qu'elles disent, c'est à prendre, plutôt à laisser qu'à prendre. Et donc je crois que ça, c'est quelque chose de très important parce que pour beaucoup de choses, effectivement, il y a des gens qui veulent parler à la place des autres, qui veulent faire, notre bonheur malgré nous. Et bon, parfois, ça serait pas mal qu'on ait l'avis, de ceux, des principaux intéressés. Mais c'est un gros problème de débat aujourd'hui.
Oui, je m'appelle.
Alors, est-ce que qui veut intervenir là?
Oui, moi, je m'appelle Dimitri Ioana. Vous avez raison. C'est pas bien, Bordeline. C'est pas bien. Nous, femmes, jeunes, travaillons beaucoup, beaucoup. Vous avez raison. C'est pas bien prostitution. Vous avez raison. D'accord. Chino, femmes, jeunes, travaillent beaucoup. Vous avez raison.
Moi, j'ai pas dit ça. Ah bon, c'est pas grave. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque? Parce que on arrive. Oui.
Bonjour. Ça fonctionne ? Ouais. C'est juste une précision. Je voudrais demander à Ruben Ogier. Dans la liste des conditions que vous avez énumérées pour un consentement libre et éclairé, vous avez parlé qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'abus de faiblesse. Je voulais savoir si vous l'entendiez au sens juridique ou si vous le fondiez cette notion philosophiquement. Est-ce que vous pouvez juste dire quelques mots sur l'abus de faiblesse ?
Au fond, c'est du pseudo-droit, enfin, comme les philosophes en général. C'est pas très précis du point de vue du vocabulaire juridique. Ce qui m'apportait simplement, c'était d'énumérer les conditions d'annulation d'un contrat, les clauses d'annulation d'un contrat, de dire celles que j'acceptais, en gros, donc menace, chantage, violence, etc. Bon, abus de faiblesse aurait pu être quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a entendu au moment de l'affaire Bettencourt, des choses de ce genre, mais je n'ai pas poussé. Ce qui m'apportait essentiellement, c'était de dire que la clause de la dignité de la personne humaine, pour moi, n'est pas une cause d'annulation valide d'un contrat. C'est-à-dire de dire que ce contrat n'est pas valable parce qu'il porte atteinte à la dignité de la personne humaine non pas du point de vue de ce que je dois faire aux autres, mais de ce que je dois faire à moi-même, parce que ça, c'est un des sens de la dignité humaine. J'ai donné l'exemple du lancer de main. À ce moment-là, je crois que cette clause-là, je la récuse. Donc, c'est juste une petite contribution à la question du consentement, c'est savoir quelles sont les clauses que nous acceptons pour l'annulation du contrat et celles que nous n'acceptons pas. En général, on accepte la clause de la dignité, et moi, je ne le fais pas.
Est-ce qu'il y a
une dernière?
Je crois qu'il y a une dernière, peut-être. Oui, bon, alors rebondis. Allez-y.
Juste pour ajouter un mot, je pense que... Oui, il ne faut pas oublier.
Attends,
que...
Attendez, une seconde, parce que.
Pour compléter cette question, je pense que tel qu'il existe le droit des contrats actuellement, qui met trois clauses de vice de consentement, donc par la tromperie, la duperie, etc., la contrainte, je pense que ce serait suffisant pour.
Exactement, c'est ce que je dis à la fin.
Mais ça existe déjà dans les droits des contrats.
Il y a pas... Je vais me permettre quand même de dire quelque chose pour qu'il y ait un petit peu de dialogue entre nous. J'ai l'impression que dans ce débat autour de la prostitution, généralement, ce qu'on confond, les philosophes aiment bien dire ce qu'on confond lorsqu'ils sont confus eux-mêmes, mais bon, c'est le paternalisme et le patriarcat. Alors, je considère que c'est extrêmement important de lutter contre le patriarcat, une forme de domination des personnes, mais la lutte contre le patriarcat ne doit pas aboutir à des formes de paternalisme où on dit aux gens ce qu'ils doivent faire de leur propre vie, même s'ils ne causent pas de tort aux autres, parce que la domination est un tort qui est causé aux autres. Philosophiquement, comment fonder cette différence? On peut le faire sur des notions comme celle de liberté négative et liberté positive. Qu'est-ce que la liberté négative? C'est celle de ne plus être dans l'état dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que la liberté positive? C'est un peu ce que vous avez dit, devenir meilleur, plus conscient, etc. Mm-hmm. Bon, c'est une autre chose. Pensez au film de Spielberg, Lincoln, et un débat à un moment sur mettre fin à l'esclavage. Et certains disent, vous allez cesser, les esclaves vont être libres, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette liberté? Eh bien, ça ne m'importe absolument pas. Ça, c'est du paternalisme, savoir ce qu'ils vont faire de leur liberté. Ce qui m'importe, c'est que la domination et l'esclavage soient éliminés. Donc, je ferai simplement très attention à ce que, dans mon discours contre le patriarcat, il n'y ait pas de pointe de paternalisme.
Merci. Alors,
moi, je voulais rappeler qu'une bonne partie des victimes de la traite, sont des mineurs, des filles mineures qui sont importées. Je voulais aussi rappeler que quand on parle avec des prostituées, effectivement, il apparaît très fréquemment qu'elles ont été victimes d'abus sexuels quand elles étaient enfants ou de viols et qu'elles ne supportent ce travail qu'au prix d'un certain clivage psychologique qui est très souvent difficile à vivre.
Bon. Non, alors je pense que là, on retombe sur la thèse de Judith Trinquart qui parle de la décorporalisation et sur laquelle on n'a pas le temps évidemment de revenir là-dessus parce que ça nous ferait une table ronde à elle toute seule et qui a été très critiquée par les uns et encensée par les autres. Donc peut-être on n'a pas le temps de revenir là-dessus. Alors simplement, pour totalement conclure, là on a 5 minutes de retard. Simplement, je vous soumettrai une anecdote parce que les féministes, effectivement, qui veulent éradiquer la prostitution, en argument qui est nous, on s'est battu pour la contraception, pour l'IVG, contre le viol, etc. etc. Donc, il faut que dans la même foulée, on se batte contre la prostitution. Alors, je voudrais simplement vous livrer une anecdote parce qu'elle est. Ben évidemment, elle n'est pas connue. Vu compte tenu des sujets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai été amie pendant très longtemps, enfin jusqu'à sa mort, avec le docteur Simon, dont vous connaissez tous et toutes le rôle dans la création du planning familial, d'abord de la maternité heureuse et ensuite du planning familial. Et le docteur Simon me racontait que quand c'était tout à fait les débuts du planning familial et qu'il fallait que les gynécologues qui voulaient bien le faire et être adhérents au planning familial, apprennent à poser à prendre les mesures pour ce qui était le seul moyen à l'époque de contraception, à prendre les mesures sur les femmes du diaphragme qu'elles devaient commander en Angleterre. Parce qu'à ce moment-là, le diaphragme se commandait en Angleterre, la gelée à Grenoble, enfin c'était quand même assez compliqué. Mais il fallait que les gynécologues apprennent à mesurer l'intérieur des femmes pour savoir si elles commandaient un diaphragme de 1, 2, 3, etc. Pour pouvoir qu'ils apprennent ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient à l'époque rue des Colonnes, hein, c'était avant que le planning aille plus loin. Ils demandaient aux prostituées qui étaient dans le quartier, il y en avait beaucoup, donc de venir si elles étaient d'accord, et ils les rémunéraient en conséquence pour que les gynécologues puissent apprendre à prendre des mesures en regardant et mesurant à l'intérieur des prostituées. Donc voilà, je verse ça au dossier de ce qui a pu être fait. Et je ne vais pas poser la question, est-ce que c'est effectivement de l'usage abusif de son corps ou pas. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on peut, disons, avoir en tête et qui n'est pas totalement dénué d'intérêt. Ben, je vous remercie mes trois intervenants. Bravo à tous les trois.
Et donc, on fait une courte pause de 10 minutes. Donc, rendez-vous ici dans 10 minutes. Merci.